Podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, vous êtes de retour à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Mon nom est Tommy Godette et aujourd'hui, au son de Fester's Quest, un jeu vidéo qui était pas mal impossible au Nintendo, on va jaser avec l'équipe habituelle de comment construire un deck multiplayer, ou en fait, il n'y a pas de méthode parfaite, comment nous construisons nos decks multiplayer, et on va avec notre sphinx Jason Keys parler un premier bloc du lore de la magie derrière l'histoire de la nouvelle série de Magic. Hein? On parle de Throne of Eldraine en deuxième partie d'émission avec Jason Keys. Salut le Sphinx.
Hey, bonjour, bonjour.
Comment ça va de ton bord?
Et multiplayer, là, faut que les gens ils découvrent que c'est en dehors de Commander qu'il peut avoir des bonnes games. De
ah, ben oui.
Parce que Commander, moi, j'aime pas ça.
Ben, moi non plus, je pense qu'on a mis ça.
Bon, on a déjà souvent parlé.
Et voilà. Donc, merci d'être là, mon cher. On a Olivier aussi qui est autour de la table.
Oui. All of them witches.
Et voilà la phrase thème. Merci encore pour les beaux tokens.
Ah, si de rien, je prépare d'autres choses.
Disponible à l'Abysse si vous en voulez, 73-55 Saint-Michel. Sinon, vous pouvez passer au Musée de l'Absurde un vendredi avec vos voix, le foot et vos decks. On va être très content de vous recevoir. On a Bone, notre musicien, qui est ici en extra pour nous parler
Salut
de ses decks multiplayer. Salut les amis!
Salut les amis.
Oh, ah, il a trouvé sa phrase.
Okay. Tranquillement, pas vite. Hein. Bon, il fait son branding.
Bon, t'es un gros joueur de multiplayer, toi, là.
Ben, certain.
Ben, parfait. C'est ça qu'on va entendre aujourd'hui. C'est toi qui nous as fait redécouvrir Myriad. Et d'ailleurs, on t'envoie collectivement chier pour ça.
Oui.
Sinon, ben, tu peux passer le micro à ta gentille droite. On a Caroline Filion.
Je suis une fille et je joue à Magic.
Et voilà, on va parler multiplayer aussi avec elle. Oh. Et on va être content d'écouter le Lord de Throne of Eldraine. T'as-tu hâte d'en apprendre là-dessus?
Mais oui!
Ah,
c'est tellement
content.
Ma série. C'est mon coup de cœur. Ouais, je les aime beaucoup.
Et voilà, les food tokens. Hein?
Oui!
Ouais, boy.
Je les mangerais tout.
Et on poursuit avec Simon Zod de Girard.
À la bonne heure.
Ben oui, toi aussi, multiplayer, faire des decks.
Je suis pas super bon.
Ben, moi, la fois que tu nous as toutes pété nos landes...
Ouais, mais j'ai pas eu de follow-up là-dessus. Mais on en reparle tantôt comment j'entrevois le multiplayer. Il me reste des choses à apprendre. Mais c'est ça qui est merveilleux. Il y a tout le temps possibilité d'apprendre.
Ben ça, c'est sûr. Toi, tu es un joueur aussi de longue date de Magic the Gathering.
Oui, j'ai commencé à Unlimited. Ma première partie, c'était avec les cartes pour un contour en or du set. on a joué avec ça. Pas de sleeve, rien.
Dans ta carrière de joueur de Magic, as-tu joué plus de games multiplayer ou des duels?
Plus multiplayer.
Et voilà, je pense que ça revient pour beaucoup de monde, ou en tout cas beaucoup de monde autour de la table. Et on termine avec François Lompré, alias Longtour, alias l'Optimiste.
Ouais, salut les magiciens.
Salut les magiciens. Toi aussi, tu joues multiplayer des fois.
Plus souvent qu'à mon tour, ouais.
Et voilà, fait que ça va nous faire de quoi jaser. Qui commence?
J'ai une couple d'affaires à dire.
Okay. Comment tu prépares tes decks? Là? Quand tu dis que tu t'envoies d'une place, là,
stratégie, premièrement, parce qu'avant de placer des cartes dans un deck, faut que tu penses à ta stratégie. Puis une stratégie à n'absolument pas faire en multiplayer, c'est le milling. Faire du milling, c'est faire discarter la librairie de l'autre. T'as mis tout dans le graveyard. Mais c'est ça. D'expérience, là, ça marche fucking
ça,
jamais.
Tout le monde le savait, il y a juste toi qui l'as découvert.
Ben
non.
Moi, mon deck de slush...
Nous autres, on le sait, là, mais pour nos auditeurs, là,
mon deck de slush, c'est un deck de milling, puis je gagne souvent avec.
T'es le seul que j'ai vu réussir un peu
pour
à
ceux
faire
qui sont
ça.
Curieux,
ça marche pas tous les fois.
Le deck de slush est sur notre page Facebook.
C'est parce qu'on t'attaque pas au début.
Ben, c'est ça, j'en viens. Il y a aussi le spot removal, là. Ça, personne ne le fait dans
ça,
notre
c'est
groupe.
Destroy all creatures.
Ouais, tu sais,
destroy target creatures.
Aussi, non, mais tu sais, c'est d'enlever ce qui est sur la table de gossant. Puis je trouve dans notre groupe, là, ça manque. Fait que j'ai souvent la responsabilité de faire ça.
Moi, je pense que c'est vraiment important. C'est quasiment un cinquième du deck, selon moi.
Ben oui.
Faut que tu prévois, là.
Ben oui.
Comme en Commander, je mets 15 cartes minimum qui vont wiper plusieurs créatures.
T'sais, c'est beau vouloir faire ton affaire, mais faut que tu penses aux affaires des autres, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est ça. Pis sinon, il y a le côté politique en multiplayer.
Comment tu gères ça, la
Ben, moi, je pense qu'il y a 3-4 façons de jouer, là. Tu peux jouer à rien. Tu sais, tu fais rien contre les autres. Rien de trop exagéré pour toi. Tu sais, t'essaies de te faire oublier, finalement. C'est ça.
C'est sûr
ça,
que...
Ça, là, c'est le genre de joueur que j'haïs le plus.
L'aspect t'sais. Diplomatique est encore plus important quand tu joues à ben gang. Oui. Là, il faut vraiment que... Tu sais, ne pas sortir son gros monstre au tour 4, c'est quelque chose que François a encore à apprendre.
Ouais, ouais.
Et c'est correct de prendre son trou un petit peu.
J'aime ça attirer...
Moi, je suis d'accord avec toi...
Moi, je suis plus proactif.
Des bonnes games de multiplayer, là, c'est justement, c'est quand t'es une menace au début, là, tout le monde se met soudainement à te prendre au sérieux, puis là, ils t'attaquent toutes.
Mm-hmm.
Mais là, à un moment donné, c'est que vu que t'es une menace, moi, ce que je trouve que je fais, là, c'est que je me concentre sur un joueur. Puis
ouais.
C'est vraiment, j'essaie de faire comprendre là, que si moi je meurs, toi aussi tu pars. À un moment donné, là, je commence à y faire des offres. Tu peux-tu me remover ça, ça, puis ça que l'autre joueur a, puis je vais arrêter de t'achaler. Ça marche à chaque fois.
Non, mais c'est ça. C'est parce que si tout le monde est friendly ou qu'ils font rien, il y a rien qui se passe. Tout le monde fait des build-up plus possible, puis tout le monde devient décrotable.
Faut que tu pètes un gars autour de ta table, puis là, ça, il va devenir ton allié à cause de ça.
Ouais. Toi, Bond, t'en penses quoi de ça, là?
Myriade.
Toi, Myriade.
Tu peux nous en parler de ça. Qu'est-ce que ça fait?
Myriade.
Myriade, ça fait que quand ta créature attaque, ça fait un token pour chaque adversaire. Un token éphémère, si on peut dire, qui va disparaître. Mais ça attaque tout le monde en même temps.
Chacun des tokens apparaît en attaquant des monstres, des adversaires. OK.
Fait que ça.
Puis j'essaie de les rendre. De donner des bonus à ces créatures-là quand ils attaquent aussi. Ils ont chacun leur pouvoir. Il y en a une par couleur.
Mm-hmm.
Puis habituellement, j'essaie de trouver un combo qui va faire encore plus chier.
Il y a des enchantements rouges qui font que quand tu mets ton monstre en jeu, il fait du dommage égal à son power.
C'est
fait
ça.
Que là, vu que tu attaques puis que tu fais 4 copies parce qu'on est 4, fait que là, tu fais 20 dommages.
Exactement.
C'est ça, ouais.
Ou des trucs qui vont donner des bonus et haste. +2, +0, ace. Là, il y a l'ogre battle driver.
Ouais, +2, +0 et ace, c'est toutes tes créatures.
Ça aussi, ça, c'est très efficace.
Moi, je pense que t'as nommé quelque chose qui est très, très dans ma stratégie, au centre de ma stratégie quand je fais des decks. Parce que moi, je fais pas vraiment des decks pour jouer à gang ou tout seul. Là. J'essaie de faire. Tu sais, je fais des compromis pour jouer à gang pour que ce soit meilleur tout seul et je fais des compromis pour jouer tout seul pour que. Tu sais, j'ai pas des decks faits pour jouer multiplayer puis des decks faits pour jouer à deux. Fait que, tu sais, c'est tout un petit peu moins fort d'un bord comme de l'autre. Mais il y a un pouvoir qui revient et qui aide vraiment beaucoup à créer des effets de surprise quand tu joues à gang puis à prendre tout le monde off balance. Et c'est haste. J'essaie tout le temps. C'est mon pouvoir préféré. Puis d'amener un monstre haste en jeu qui peut attaquer tout de suite, avoir un gros Sheol Dread ou un gros tas, tu sais, 11-11 infect. Tu sais, s'il est pas haste, c'est sûr qu'il va se faire toaster avant que tu puisses attaquer avant. Fait que tu t'arranges pour que tous tes gros monstres soient haste et tu deviens le héros de ta propre histoire. Ça, c'est sûr et certain.
Non, mais Myriade, c'est genre, chaque copie coûte rien.
Ouais.
Ça me pue au nez.
Ouais, ouais.
Je te hais, bon.
Ben, j'ai découvert ça. Ça fait peut-être un an que j'ai découvert ça, ces cartes-là.
Moi aussi.
Puis il y a un artefact aussi qui fait qui rend Myriade ta créature.
Oh, non, non, non.
Hey, shit, hein.
Blade of Sleep, Selves, c'est ça.
C'est quand même assez capoté. Oui, Jason, as-tu quelque chose que tu veux mentionner?
Non,
tu veux nous pointer?
Elle
coûte 2, la Blade of Selves. 2 colorless, equipped creature as Myriade, equip 4. Fait que pour 6 mana, tu sais, ton.
C'est de les
non, mais le gros Wurm, quelqu'un qui arrive, tu gagnes 7 d'énergie, puis quelqu'un qui part, tu piges une carte. Ben là, t'es ton token Myriade, il arrive en jeu, fait que tu gagnes 7, puis à la fin du tour, il meurt automatiquement.
Massacre Worm, qu'à chaque fois qu'il rentre sur le jeu, toutes les autres créatures ont -2/-2.
Ben oui, ou celui, le Coil, là, celui qui fait que quand il est 6-6, puis quand il meurt, il fait un 3-3 lifelink, puis un 3-3.
J'ai plus faim.
Fait que c'est ça.
Comment vous trouvez le card draw en multiplayer? Moi, je trouve ça, tu sais, comme des cartes comme Opt ou Divination, tu sais, juste des cartes qui vont te faire piger. Est-ce que vous préférez avoir ça comme en artefact ou vous êtes prêt à jouer des Sorcery ou des Instant qui fait piger?
Moi, pour citer Carben Dallas dans la cinquième élément, je ne joue pas multiplayer. Mais quand je joue, je joue les spells conventionnels, le Brainstorm, tout Ponder, Preordain. Je les joue quand même parce que t'as besoin de ça justement pour aller trouver ce que t'as besoin au fil de la game. C'est peut-être moins pertinent à multiplayer de jouer des counter spells. Parce qu'à part des Wrath of God ou des affaires vraiment spécifiques, comme François va essayer de t'éclairer à la table avec un artefact, que peut-être faudrait que tu l'enlèves, mais il faut aussi que tu penses, toi, qu'est-ce que tu veux faire dans ton deck, puis comment aller chercher tes affaires le plus rapidement possible. Fait que moi, je les joue.
Et voilà, c'est dit, sapristi.
Moi, j'ai commencé... Avant, je me disais que Counterspell en multiplayer, c'est pas bon. Mais depuis quelques mois, là, j'ai dans mes decks bleus en Commander, je mets un ou deux Counterspell. Puis je me suis rendu compte là, que c'est tout le temps vers la fin de la game là, ouais, quand c'est critique. Là. Ouais. Puis tu gardes ton Counterspell dans ta main tout le long. Là. Puis je me suis rendu compte, juste un Negate ou un bon vieux Counterspell old school, là,
oh, oui.
ça peut. Parce que l'autre, il va arriver, il va faire son combo, là, puis tu vas... Nope.
Nu.
Pour faire du Counterspell en multiplayer, il y a quand même une option avec Isochron Scepter.
Ouais. Oh,
ça, c'est, c'est un artefact que tu mets en jeu, puis là, tu t'exiles un counterspell de ta main, mettons, un instant, qui coûte 2.
Check là, ça tiré de la
c'est ça. Fait que là, tu mets ça, puis mettons, t'as de quoi qui détape tous tes permanents à chaque tour des autres. Mais là, à chaque tour, tu peux y counterspeller le spell fatigant.
Il y a un autre, il y a une autre façon de quand c'est pas vraiment un counterspell proprement dit, mais il y a d'autres cartes que j'aime bien en multiplayer, c'est les Wheel Effect. T'sais, on pense à Windfall, parce que Time Twister, c'est pas à moins qu'on joue Vintage. Là. Mais puis, c'est quoi l'autre? Wheel of Fortune. Windfall, c'est each player discards their hand, then draws cards equal to the greatest number of cards a player discarded this way.
Ouais. Imagine, un bleu de colorless, mais ça, je pense que c'est plus légal.
Plus légal.
Ouais, ce gars, c'est légal en Commander.
Ah, c'est plus légal en Legacy. Bon, mais. Mais il y a beaucoup de spells en Magic. Il y en a même sorti un dans Throne of Eldraine. C'est comme le Clock Tower. Là, je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement. Cet effet-là revient souvent. Puis en multiplayer, tu dis ma main, moi je peux m'en débarrasser. C'est pas ce que je veux. T'as le Midnight Clock. Là, c'est un artefact. Justement, c'est encore mieux. Coûte 2 colorless, un bleu. Ça dit tape pour avoir un mana bleu. Ou son effet, tu payes 2 colorless, un bleu. Put an hour counter on Midnight Clock. At the beginning of each upkeep, put an hour counter on midnight clock. When the 12th hour counter is put on midnight clock, shuffle your hand and graveyard into your library, then draw 7 cards, exile midnight clock.
Ah, je le veux pour mon deck de sludge.
C'est ça, fait que ces affaires-là, ça permet à quelqu'un qui a une petite bonne main qui va avoir l'avantage dans les prochains tours. Whoop! Man, tu repiges des lands, des affaires, des discards. C'est n'importe quoi que c'est pas ça que tu veux. Puis moi, ben ça va m'avantager.
Piger en multiplayer, ça a quand même son importance, mais aussi de savoir quand jouer, parce que c'est ça, c'est. Admettons, tu joues à 4. Faut que tu réagisses 3 fois avant que ça revienne à ton tour. Fait que ça prend de la carte. Puis sinon aussi, ben là, il y a le côté, comme on disait, soit politique ou surprise. Là, de genre, c'est si la personne après moi casse quelque chose de gros, est-ce que je m'en occupe là ou j'attends de voir qu'est-ce que les autres joueurs vont jouer? Tu sais, il y a ça qui rentre en jeu. Mais justement, pour pouvoir réagir à tout le monde en multiplayer, c'est toujours bon de piger. Mais j'aime aussi des fetch. Puis quelque chose qu'il va falloir que j'explore aussi, c'est tous les effets de... va chercher une carte en dehors de ton paquet. Là, parce que
ouais, des Demonic Tutor? Là?
Non, Tutor,
non, mais ça, les Wish, paquet. Les cartes qui ont les Wish. Ouais.
Les Wish.
Moi, il y a...
C'est ça. Moi, il va falloir que j'apprenne peut-être aussi, en général, à m'occuper d'un sideboard.
Ouais.
D'un side deck. Oui, Tommy?
En fait, ce que je voulais dire, c'est que là, on parle beaucoup de stratégie pour jouer, mais je veux dire, faire les decks... Est-ce que vous avez une stratégie différente pour monter vos decks par rapport à une stratégie pour monter les decks en duel? Est-ce que vos decks sont pensés pour faire les deux? Toi, t'es...
C'est assez rare le monde qui font comme toi. D'habitude, c'est vraiment un deck duel ou multiplayer.
Et voilà.
Moi, je fais comme Tommy pas mal. Ouais, parce que moi, je joue principalement duel. C'est connu. puis combo, puis j'aime pas ça. J'aime ça quand que ça va vite, puis que ma stratégie est vraiment fitée, drette, là. C'est juste ça que je fais, je m'en fous de l'autre. Mais quand je joue en multiplayer, je vais enlever tout ce qui s'oriente plus comme versus un joueur comme Tati, je vais enlever ça. Les Counterspell, j'en garde, mais vu que c'est souvent juste pour une personne, je vais en mettre moins, puis je vais aller plus des affaires qui me permettent d'avoir un board state plus constant. Ben, plus
c'est
consistant.
Parce qu'en duel, t'as besoin d'être crissement moins gentil.
Faut que tu vises plus le grand public. Là. Faut que tu fasses un combo, puis tu tournes une shot, ou tu fais des mass removal.
Sinon, il y a quelque chose aussi que peut-être la majorité des plus jeunes joueurs de Magic sont pas au courant, mais avant, longtemps avant Commander, on jouait multiplayer et il n'y avait pas de problème. Tu peux. Puis je veux dire aussi, c'est une bonne manière multiplayer que Nathan, il s'est acheté un deck préfet à 15$. Puis il a déjà gagné des games parce qu'on on jouait multiplayer, puis là on s'en occupe moins, mais là il est capable de monter son board, puis à un moment donné on s'est tellement tapé les deux plus forts que là lui il fait ben je vous envoie un elfe chacun. Pis
ouais,
là,
c'est ça Magic, c'est pas parce que c'est le meilleur deck que
c'est
ça te garantit
exactement.
La victoire, non.
Caroline, t'as pas encore parlé. Toi.
Non, mais écoute, récapitulation de tous les points qui ont été dits, ben je sais pas, moi en multiplayer je suis pas très. Pas très réactive. Moi, je suis plus du genre à, OK, je me concentre à vouloir monter mon deck, à monter quelque chose qui va être fort, qui va pouvoir se builder. Je me base un petit peu sur le fait que ça va être plus long à partir, c'est sûr et certain. Fait que, c'est peut-être plus des combinaisons qui. Une petite armée qui se monte tranquillement, pas vite. Je suis pas très counterspell en partant. Fait que même en duel ou.
Fait que toi, tu prends la stratégie à être discrète au début, puis t'espères qu'on t'ignore jusqu'à temps que tu sois assez gros.
Moi, ouais, ben ça marche quand même pas si pire en général. Ça le fait.
Quand tu
bâtis
ton deck, tu dis ça va être ça.
Ouais, c'est ça. Ou sinon, je suis plus spécialisée. Je suis pas très masse. Pas très attaque de masse.
Ah, oui,
ouais, c'est ça. Je suis peut-être celle qui va avoir la petite carte pour aller détruire la grosse bébite, là, mais qui va se faire massacrer parce que.
J'avais peut-être justement en parlant d'effet de masse, c'est ça, je voudrais juste spécifier que toutes les cartes qui ont des effets de masse en multiplayer, là, checkez ça parce que c'est vraiment fort. Là. Nous autres, on joue. Tu sais, quand on est beaucoup, nous autres, les effets de masse se limitent à deux joueurs à gauche puis à droite, là, mais généralement, c'est ça, c'est comme le gris shit là qui quand
le
tu manges
le gris marchand d'Asphodel
ça, ça c'est
carry.
Un effet de masse puis c'est crissement violent là.
Ouais, ça que,
mais jouer de la pousse c'est trop cheap
en multiplayer là, tu prends un gros véhicule blindé une espèce de gros une grosse pelle excavatrice Volvo mais quand tu joues en duel tu prends un speed bike.
Et voilà. Bone, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet-là.
Ben, moi, je joue surtout en multiplayer. C'est mon format préféré. Fait que j'étais à la recherche de cartes.
De chats.
Qui font des effets de masse. Ou des trucs de contrôle dans le rouge qui vont venir. Il y a une carte qui coûte 6. Qui fait que tu contrôles toutes les créatures de power 4 et plus sur le board pour un tour.
C'est insurrection.
Ou 3. Non. Ou 3 et moins. Fait que là, tu ramasses quasiment tout le board, puis t'attaques en masse.
Et voilà, tu décides qui mérite de survivre.
Ouais,
et qui...
Ou des trucs qui vont venir, le Power Gold, qui va faire que les créatures des autres sont obligées d'attaquer
mais
un autre joueur.
Le Sorcery Rouge que tu parlais,
Mob
c'est
Mob Rule.
C'est dans Fate for Forge. Ouais, ça, c'est.
Deux rouges, quatre colorless.
C'est
mais...
sauvage quand t'arrives.
Ça en multiplayer, là.
Au septième tour, là, quand il y a plusieurs créatures.
Fait
là,
que tu voles les créatures de tout le monde autour de la table.
C'est un peu ça. Ouais.
Mais en tout cas, sur le multiplayer, c'est le fun parce que depuis 3-4 ans, là, ils sortent des cartes pour ça.
Ouais.
Puis.
C'est parce que Commander est probablement le format le plus populaire après le draft. Fait qu'ils font des cartes spéciales pour ça.
Il n'y avait pas ça avant. Là.
Non. Avant Magic, c'est longtemps été, c'est des duels.
Et voilà, ça termine la discussion sur ce premier sujet. Hein. Ça fait déjà comme presque 20 minutes qu'on jase de ça. Ça passe vite à terrain basique. Merci tout le monde d'être là. Si vous avez des trucs pour construire des decks multiplayer, n'hésitez pas à nous les partager en discussion en dessous du post sur Facebook ou à venir chez nous un vendredi. On est bien content de rencontrer du monde. Ce qui nous amène vers le sujet de la carte de la semaine. Et comme d'habitude, c'est une présentation du très sympathique magasin de cartes et de ludicité, l'Abysse 7355 Saint-Michel au métro Saint-Michel. Et on écoute le beat à Bone, on s'en va vers la carte de la semaine. Cette semaine, je pense que c'est François Lompré qui a insisté violemment pour
ouais.
nous introduire.
Comme un géant, je vous écrase la face pour avoir la primeur, c'ti. Bon, ben, cette semaine, je vais vous parler de Bone Crusher Giant, une carte qui est parue dans le Throne of Eldraine. C'est ça. Donc, c'est deux colorless, un rouge, une créature géante, 4-3. Whenever Bone Crusher Giant becomes the target of a spell, Bone Crusher Giant deals 2 damage to that spell's controller. Et elle a un effet aussi Adventure. Que c'est un instant que tu peux faire damage can be prevent this turn puis stomp deal 2 damage to any target.
Fait que c'est un spell de choc sur un géant 4-3.
Ouais, ben il coûte plus cher ton choc, sauf que le dégât peut pas être prévenu durant tout le tour.
Bah oui, c'est ça.
C'est ça. Ouais, puis, c'est fort, hein,
quand, ça fit bien genre avec la carte de la semaine passée.
Oui.
Parce que c'est
un trigger an adventure.
Ben là tu fais 4 points de dégâts.
Moi, je le joue vas-y.
Oui, c'est ça. Et il vient avec son propre Ley Line of Combustion. Oui.
Si l'autre le target, il va donner des dégâts. Ouais. Moi, je le joue mono-rouge en standard, puis ça, c'est mon All-Star.
J'aime beaucoup le dessin de...
Oui, le dessin.
Il est en train d'écraser le chevalier, puis la quote, c'est « Not every tale ends in glory
».
Moi, je pense que c'est une des cartes les plus fortes dans le format actuellement standard de Throne of Eldraine. Là, c'est... Quand vous voyez ça en draft, le pigé là.
Bon, oui.
Puis les decks de mono rouge avec. Ouais. Parce qu'écoute, c'est un removal, puis après ça, c'est un 4-3. Puis tu sais, il coûte 3, 2 colorless, un rouge, là, pour un 4-3, là, c'est rien.
C'est ça. Puis en plus, il coûte juste un rouge. Fait que tu peux le splasher dans un autre deck.
Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup les géants. J'ai un deck de géants multiplayer, rouge-blanc.
Ah ouais,
il va y aller, là. C'est ça, dans Troll Level Drain, il y en a une couple d'autres géants, là.
Ouais, il y a une grosse thématique.
J'ai bien aimé ça dans Lorwyn, justement.
Ça ramène les géants.
Ouais, c'est ça.
Ça fait très fairy
tale. On est très loin des Hill Giants en 93.
Effectivement.
Le premier géant à Magic.
Il était Mountain Walk.
Ah oui. Ça fait le tour pour la carte.
Ça fait le tour de la carte de la semaine. On s'en va vers un très attendu premier bloc de Lord the Throne of Eldraine. Juste après, du beat à... Hein? Du beat à...
Bone.
Du beat à bone. Ah, ça veut dire que prenez votre petite tasse de thé, installez-vous confortable, ouvrez la liste des cartes que Jason met en dessous de chacune des partages d'émissions sur Facebook, sur notre Facebook de Terre et Basique. On s'en va dans le comic book de Hype. Ça commence par Once Upon a Time.
Il était une fois. Donc, moi, j'ai été blow away par Throne of Eldraine. Tu sais, ça faisait plusieurs années là, que Magic avait pas été dans le... Tu sais, comment je peux dire ça, là? Un monde médiéval.
Ouais.
Tu sais,
c'est le médiéval.
Ravnica, là, c'est la Renaissance. Ouais. Innistrad, c'est gothique, 17e siècle.
Kaladesh,
c'est le futur. Tu sais, Mirodin, mais là, c'est complètement science-fiction. Là, Magic, Wizards of the Coast sont retournés à leurs racines. Je me suis amusé beaucoup pour préparer cette émission-là à lire les interviews behind the scenes, là. Puis c'est vraiment, ils ont commencé à plancher sur ce projet-là en 2005, en même temps qu'ils ont commencé à faire un peu de recherche pour Amonkhet, notamment, qui était le set égyptien. Ils se sont dit, on va faire aussi un set sur les légendes du roi Arthur. Puis vu que ça va être un peu plus upbeat, tu sais, comme happy, Même s'il y a quand même un gros côté dark, on va voir, là. Ça va être un excellent monde, là, tu sais, d'interlude. Tu sais, ils viennent de finir, là, l'histoire avec Nicole Bolas puis la guerre des Sparks, qui était vraiment dark. Puis là, tu sais, ils peuvent, avec Throne of Eldraine, ils transitent vers une autre
mais
forme.
Mais c'est ça, il n'y a rien qui relie ces deux mondes-là.
Ce monde-là est vraiment nouveau. Il n'y a pas de traces dans les autres sets de Magic, à part les Planeswalkers.
Moi, j'ai entendu dire qu'on va parler beaucoup de Garruk, là.
Oui, Garruk est le seul personnage qui vient des autres sets qu'on connaît. Mais ils se sont... C'est ça, j'ai confirmé dans les entrevues, puis c'est vraiment la légende arthurienne qui est à la base de le héroïque fantaisique des épées, puis ça. Puis c'est drôle parce que moi, ce que ça m'a amené ensuite, c'est que je me suis mis à... Tu sais, je me suis retapé le film Excalibur de John Borman. Excellent
ça
film.
C'est le film dans lequel il fourre en full plate.
Oui, c'est ce film-là.
C'est combien sur 10, cette affaire-là, Tommy?
Hey, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Moi, j'irais autour de plus 6, plus 7. Là. Mais c'est un peu overblown.
Moi, je suis à... Moi, je suis à 5.
Moi, genre, le monde aimait ça à l'époque, surtout parce qu'il y avait des full plates puis des épées.
C'est ça qui m'avait accroché à ce film-là. Puis du Wagner, il y a qui joue en soundtrack, bref. Puis là, c'est ça. Puis après ça, je me suis mis à lire plus les... ils ont vraiment pris les légendes arthuriennes, puis ils ont adapté, ça c'est ce qu'on va parler maintenant, ils ont adapté à l'univers de Magic, puis ils ont rajouté aussi toutes les... Là, c'est ça que les gens disent, Throne of Eldraine, c'est Disney. Ouais, mais c'est parce que Disney, toutes leurs histoires de contes de fées, ils ont pris ça sur des vieilles histoires du 19e siècle romantique.
Ils ont pas inventé Cendrillon, Zartin.
C'est ça. C'est
il y a une base de contes des frères Grimm aussi.
Frère Green, qui était... Toi, tu connais un peu...
Grimm, attention.
Grimm, c'est des contes allemands.
Oui.
Ouais,
fait qu'il y en a beaucoup dans Throne of Eldraine. On va les mentionner, mais l'épisode de la semaine prochaine. Moi, ce que je voulais me concentrer pour cette partie ici, pour expliquer un peu la base du monde, c'est vraiment la légende arthurienne. Puis, on va revenir sur les Frères Grimm semaine prochaine. La légende arthurienne, pis ça c'est un aspect qu'on a un peu oublié par rapport au Moyen-Âge, c'est le thème de la forêt, les terres sauvages. Puis tu lis, tu sais, n'importe quel ouvrage médiéviste, ils vont vous mentionner à quel point au Moyen-Âge, tu sais, c'est après la chute de l'Empire romain, les forêts avaient recouvert l'Europe. Puis les gens avaient toutes sortes de superstitions par rapport à la forêt. Puis c'est très présent dans les contes de Merlin puis des chevaliers de la Table Ronde. C'est dans Eldraine, il appelle ça le Wild. Puis je pense que c'est aussi ce qu'on a dans Night Summer.
The Midsummer's Night Dream de Shakespeare.
Oui.
Son poème le plus Austin, Texas, je dirais. Là. C'est le champ gauche. Là. C'est... Il y a du monde qui pense que Shakespeare, c'est plusieurs personnes, beaucoup à cause de ce poème-là, de cette histoire-là qui raconte. On est loin de ces histoires de fratricide, puis de cours qui se rebellent, puis là, c'est comme juste des esprits, puis des farfadets.
Mais ils ont.
Puis qui boivent.
Ils ont recyclé cette histoire-là dans Throne of Eldraine. Vous allez voir, quand je vais parler du verre, c'est présent partout. Fait que c'est les trois grosses influences. Les contes de fées des Grimm.
Des Grimm. Les frères Grimm. G-R-I-M-M.
Shakespeare, puis le roi Arthur et la chevalier de table ronde.
C'est un très beau melting pot. Et si on peut comme en reparler, tout ça, c'est beaucoup plus vieux que Disney.
Oui.
Okay,
ouais.
Fait, ça règle le débat. Ça me tape ses nerfs. Moi aussi.
Disney a tellement recyclé des classiques. Ils ont
que les gens pensent que c'est
original, dans le fond, eux autres. Là, si tu regardes ça là, dans leur film et tout ça, il n'y en a pas beaucoup que c'est eux qui ont créé.
C'est,
ils ont,
c'est pas
ils
Walt Disney qui a inventé Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est, même Peter Pan, c'est pas eux autres. Continue, Jason.
Donc, toutes les Basic Lands dans Eldraine, vous allez voir, c'est surtout les artworks, des espèces de trucs lumineux, là, genre Luciole. Ça représente ce qui s'appelle dans le monde Eldraine, c'est le wild. C'est, dans le fond, c'est le sauvage, les fées, les créatures fantastiques. Puis, dans l'univers, il disait qu'autrefois, le plan d'Eldraine, c'était juste le wild. Puis, c'était contrôlé par les préférés de Tommy Godette, les elfes. Donc, il y a plusieurs elfes. Il y a plusieurs elfes dans Eldraine qui sont en trois clans. Il y a les Mareleaf, les Okame, puis les Rosethorn. Ça, c'est les trois familles d'elfes dans Eldraine. Mais ce qui va faire plaisir à Tommy Godette, dans le set de Throne of Eldraine, les elfes sont en déclin.
Yes!
Donc... Les elfes, ils ont vu les humains étaient un peu comme
fuck
leur...
them,
les humains étaient un peu comme leurs valets. Puis à un moment donné, il y a eu une révolte. Puis
il y avait des esclaves.
Oui, c'est des elfes.
Oh, lisse que j'ai pas de respect pour ça.
C'est des elfes du wild, là. Puis
ça existe pas.
C'est très elfes classique, là, si vous connaissez votre mythologie, là. Donc les elfes de Eldraine avaient en joug les humains jusqu'à un jour où les humains se sont révoltés. Puis ça a créé les cinq cours de Eldraine. Cours au sens d'un roi, là. Mm-hmm. Fait que c'est les cinq couleurs dans Eldraine. Il y a cinq couleurs à Magic.
Qui viennent de la rébellion. Tu vois, hein, encore une fois, sortir de l'esclavagisme a comme créé des civilisations et plein d'affaires utiles qui étaient regardées de haut par une caste d'esclavagistes sans dessein.
Fait que les humains, c'est ça, ils se sont organisés sous le bon vieux système féodal. C'est pour ça qu'il y a un gros
c'est
thème.
C'est le meilleur.
C'est pour ça qu'il y a un gros thème de chevalier dans Eldraine, ce qui est basé bien sûr sur les chevaliers de la table ronde. Vous aurez compris que chacune des couleurs, ces chevaliers, ben, t'sais, la table ronde, ça inclut tout le monde. Fait que dans l'harmonie du royaume, une fois qu'on s'est débarrassé des elfes,
yes!
ils ont créé, ça s'appelle le Circle of Loyalty. C'est un artefact mythique dans le blanc. Le Circle of Loyalty, 4 colorless, 2 blancs. Il te coûte un de moins pour chaque knight que tu contrôles. Toutes tes créatures ont +1/+1. Chaque fois que tu mets un Legendary, tu crées un knight 2/2 avec vigilance. Puis tu peux taper 4 pour pomper des knight tokens. Vous allez voir, là, à travers la couleur blanche, il y a beaucoup de cartes où on voit une espèce de cercle de lumière.
Ouais.
Ça, c'est le cercle de loyauté. C'est l'équivalent de la table ronde dans Eldraine.
OK.
Puis,
c'est comme une manifestation magique qui n'est pas un portail. Là. C'est juste qu'ils peuvent dire on s'aime, puis là, ça apparaît.
Comme la carte Rally for the Throne, où ce qu'on voit que l'apparition magique apparaît devant les chevaliers assemblés avant la bataille. C'est Rally for the Throne, c'est un instant où tu crées deux humains 1/1. Puis si tu as Adamant, tu vas gagner un point de vie pour chacune de tes créatures. Silver Flame Ritual, Sorcery. Lis-nous le flavor text de Silver Flame Ritual, Tommy.
Avec plaisir. Tempered by fire and united in virtue, the Knights of Ardenvale fight with a single unbreakable will.
Donc, c'est ça. La cour de Ardenvale, ça, c'est comme ça que ça s'appelle la couleur blanche dans Eldraine. On voit... Moi, c'est ce que j'aime, là, c'est que t'as certains des basic lands, mais il faut vraiment que tu forces avec tes yeux, il faut que tu zoomes. Il y a 5 castles dans Eldraine, 5 châteaux qui sont des lands rares châteaux. Puis chacune de leurs couleurs a son château. Comme la couleur blanche, c'est le château de Ardenvale, le Castle Ardenvale, il fait un mana blanc, tu peux payer 4 pour créer des 1/1 tokens. On le voit sur le basic plan, là, quand tu zoomes, mais il est comme perdu un peu dans la lumière. Chaque basic land, on voit le château dans le fond.
Ouais, ouais.
Fait que ça, les premiers qui se sont révoltés, c'était Ardenvale, c'est la vallée, là, la plaine. Ça, c'est les premiers humains qui se sont révoltés des elfes.
Yes.
Ils ont créé le cercle de loyauté. Puis toutes les dynasties suivantes se sont données. L'objectif, c'est de repousser le wild pour ramener l'ordre, tu sais, féodal avec les chevaliers, ces choses-là. Fait que le premier royaume, c'est les blancs, puis sont en guerre contre les elfes.
Contre la nature.
Puis c'est un combat continuel. Vous avez remarqué, il y a un thème de non-human dans Eldraine, puis plus que toujours des géants, des dwarfs, des elfes. Ils se boostent ensemble. Mm-hmm. Puis l'autre thème, c'est les knights qui sont les humains. Fait que t'as comme un genre de guerre entre ces deux. Ah, il y a les fées aussi qui sont du bord des non-humans. Moi, j'aime beaucoup, là, par exemple, la carte, on le voit bien, l'espèce de dualité entre les royaumes puis le wild. La carte CV Hunter, un colorless, un noir, un vert pour un human warrior 3/3. À chaque fois qu'il attaque, tu crées un food token. Tu peux sacrifier 2 food pour piger une carte. Puis moi, j'aime vraiment le artwork où on voit l'espèce de paysanne, là. Elle traîne un genre de cerf qui est allé tuer dans la forêt.
Avec un écureuil.
Puis elle a pogné des écureuils. Il y a un running gag d'écureuils à Magic qui sont tout le temps là.
Un
lapin. Lis-nous le flavor text.
Ouais, avec plaisir. J'en profite d'ailleurs pour mentionner que c'est le Savvy Hunter parce qu'il y a deux
V. Oui, il y a deux V.
La double consonne, ça amortit la voyelle. None of the other villagers dare venture into the wilds, so she feeds the whole hamlet herself.
Fait que les humains, ils chassent en forêt. Le problème, c'est que des fois, vu que c'est des forêts magiques, il y a beaucoup de cartes, là, comme par exemple Fabled Passage,
from here the path to anywhere may be found.
Ça, c'est le Fetchland qui te permet d'aller chez... c'est le nouveau Fetchland rare.
C'est bon.
Ce que ça représente, c'est que quand tu te promènes dans les terres sauvages, faut vraiment tu fais attention parce que tu peux te retrouver, il y a comme une espèce de deuxième dimension, là.
Le Dark Side of the Wild.
Dark Side of the Wild. Fait que là, on voit sur la carte, faut pas que tu... C'est un tronc d'arbre avec un trou.
Ouais.
Faut pas que tu passes dans le trou, tu comprends?
Ouais.
La carte Escape to the Wild, où on voit, c'est à l'intérieur d'un château. On voit une espèce de portal qui est ouvert dans le foyer, dans le château. Puis là, on voit, il y a une rivière, puis tu peux prendre un sentier pour aller te promener.
Ouais, c'est vraiment
cool. Ça représente ça. C'est comme une genre de... Les chevaliers, ils voient ça comme une genre de menace constante, parce qu'il y a tout le temps comme une guerre, là, de pouces.
Comme un creeper à Minecraft.
Ouais, exactement. Lis-nous le flavor text d'Escape to the Wild.
Escape to the Wild, c'est 3 colorless, un rouge, un vert. T'exiles les top 5 cartes de ton library et tu peux jouer ces cartes-là jusqu'à la fin de ton prochain tour. Et tu peux aussi mettre un land additionnel en tour, ce qui fait que, en jeu, ce qui fait que pour 5 au minimum, sûrement, tu vas mettre un autre land et peut-être faire un spell de Guards, Kindle the Heart, and locked the door to Elwen's chamber. By morning, the fire was out and Elwen was gone. Le tabarnak.
Puis pour ceux qui n'ont pas compris la référence, là, ça vient directement du labyrinthe de Pan. Qui est un autre conte de fées. Un excellent film, c'est que je vous conseille.
Ouais, avec des nazis puis des flashbacks tout le long.
Toi, t'es pas d'accord, bon? Pas bon, Zod?
Moi, ce qui m'a fait... ce qui m'a agressé.
De labyrinthe de Pan?
Dans le labyrinthe de
Pan. On a le temps.
C'est que... La protagoniste se fait donner une deuxième chance. C'est avec la craie, là.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est genre, ah, elle a touché à quelque chose dans la table, puis là, c'est, il avait dit, touche pas. Puis après, ah non, je sais que ça finit mal après, mais c'est à cause. Après, elle se fait donner une craie, je pense, ou elle se fait donner. Non, en tout cas, elle a encore accès à ce monde-là après, tandis qu'elle n'était pas censée.
C'est pas super bon, ce film-là, moi, je
pense. Non, j'ai pas d'accord.
Non, je suis pas d'accord.
Mais t'es-tu d'accord que ça le concept ressemble au Wild dans
Elden Ring? Oui, tout à fait.
Et voilà. Mais on n'est pas là pour parler de cinéma.
Non.
On bouge ça.
Écoutez.
On est ici.
Écoutez Critique Exquise, le podcast de Tony Godette sur le film.
On parlait de cinéma.
OK, je reviens sur mon truc.
C'est un petit crossover.
Le Wild, c'est un peu à double tranchant pour eux-mêmes. Vous avez sûrement vu cette carte-là. Questing Beast. Deux couronnes, deux verres. Legendary, 4-4. Vigilance, Death Touch, Haste. Elle peut pas être bloquée par des créatures qui ont un power de 2 ou moins. Les combat damage qui... peut pas être prévenu, puis chaque fois qu'elle deal du combat damage, tu peux aussi taper sur un planeswalker que ce...
Mais c'est donc bien musclé du Christ!
C'est une carte mythique. Ouais, ça, c'est la carte qui domine partout standard en
mais
ce moment.
Mais voyons donc, puis en plus, tu peux plus faire de fog, t'as vu?
Tu peux plus faire
de fog. Je peux plus être... check l'autre bourbonnet
qui lui flappe son shit. Bref, moi, ce que j'aime de l'histoire de la Questing Beach, ça vient, en fait, c'est de Perceval, dans les mythes du roi Arthur. Il y a le roi Arthur est comme... il y a une genre de relation avec le Questing Beast. Vous irez lire sur Wikipédia, taper Questing Beast dans Wikipédia. Là. C'est une vraie légende qui vient du roi Arthur, puis c'est full plein d'inceste. C'est genre... elle a comme couché avec son frère, puis là, ils ont été sacrifiés par une witch, whatever.
Mais c'est quoi c'est tu veux dire? C'est que la Questing Beast, c'est comme une métaphore des péchés d'Arthur, des péchés
charnels d'Arthur. Oui, c'est ça. Puis pour racheter sa faute, dans le fond, faut qu'il fait les quests que lui donne la bête.
OK.
Je trouve que cette histoire-là est mal rendue sur la mécanique, mais bon, je suis content qu'on ait mis une Questing Beast là-dedans, parce que la Questing Beast, c'est elle qui a un peu montré le chemin là, au roi de Eldraine, les différents. Puis, on va voir là, dans les prochains épisodes, il y a pas mal de cartes qui réfèrent à le roi qui s'appelle Kendrit. Ça, c'est le roi cinq couleurs. Là, vous l'avez
c'est lui comme le premier qui s'est rebellé des elfes.
Non, c'est pas le premier. C'est lui qui est sur le trône en ce moment.
Okay.
Puis, on voyait... ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais dans le kit de pre-release, il y avait un petit texte. Là, qui est, moi, je trouve ça le fun à ce temps. Il inclut les histoires à travers les cartes. Fait que, est-ce qu'il y a-t-il un volontaire qui veut nous lire? Vas-y, Longtour.
Le haut roi Kenrith a disparu. En son absence, la méfiance s'installe dans le royaume. Et nombreux sont ceux qui accusent les fées qui résident dans les friches mystérieuses.
Ça, c'est le Wild.
Aujourd'hui, le royaume mobilise ses plus preux chevaliers pour s'aventurer dans les friches à la recherche du roi disparu et traduire ses ravisseurs en justice. Le voyage sera périlleux. Si tous les fées ne se montrent pas hostiles à l'égard des humains du royaume, seul un fou leur ferait totalement confiance. Les plus amicaux n'en restent pas moins rusés et facétieux. Vous devrez faire preuve de courage et d'astuce, mais à votre retour triomphant, vous trouverez la place qui vous revient de droit dans la légende d'Eldraine.
Donc c'est ça, t'es comme le roi a disparu, puis là dans le fond les joueurs...
C'est un petit peu comme l'ancien
la West, carte de
c'est exactement
lui.
Ça. C'est ça. Oui, il y a une carte de lui, on va en parler la semaine prochaine. Moi c'était, je voulais juste vous glisser le Wild, puis la semaine prochaine je vais sauter dans les couleurs.
Je pense qu'on a un show là-dessus. Merci beaucoup Jason, c'est très touchant cette histoire de liberté et de finalement la justice rendue envers un esclavagiste cruel et sans dessein et égoïste. égoïstes que sont les elfes.
C'est sûr que c'est toujours mieux quand les humains rentrent dans le top et détruisent la nature.
Ben oui, ben les humains sont en guerre contre la nature. Les preuves sont là. Là-dessus, merci beaucoup Jason, Jason Keys, le Sphinx. Ça fut très... j'ai hâte à la semaine prochaine. Olivier Bourbonnet, qui est juste à ta droite.
Bien sûr, je voulais juste dire que la Questing Beast, là, elle a l'air d'avoir un pelage très doux.
C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Bone, notre musicien en chef.
Ça fait plaisir et à la prochaine.
Et voilà. Merci beaucoup d'être là, Caroline.
Plus ça va, plus j'aime les elfes.
Ah ben voilà, il faut ce qu'il faut. Et Simon Zadjirard.
À la bonne heure.
Et voilà, c'est dit. Et François Lonto.
Hey, salut là.
Et voilà, merci beaucoup. Je pense que peut-être qu'on va même avoir... Karen de l'Abysse qui va être avec nous la semaine prochaine. Lorraine, voilà, désolé. Donc, mon nom est Tommy Godette. Je vous souhaite encore une fois à tous d'être le moins manascrou possible. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Spotify et on a plein de merch sur productionpodcast.com.
Achetez des t-shirts.
Voilà, j'ai hâte de parler du lore encore la semaine prochaine. C'est mon bout préféré de l'émission. N'oubliez pas de commenter nos shit. On aime tout le temps ça. À la prochaine!
Membre de la famille H2O Web Media.